Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père céleste et l'appartenance du Saint-Esprit soient avec nous tous. Recueillons pour commencer à une prière. Cher Père céleste, Créateur tout-puissant, nous te remercions pour ton royaume dans lequel nous pouvons voyager ici sur la terre. Nous te remercions pour notre Sauveur, ton Fils Jésus-Christ, qui a souffert, est mort pour nous et en nous préparant un chemin qui nous mène vers la gloire éternelle. Nous te remercions pour tous les dons temporels, pour le don de la vie. Nous te remercions pour nos compagnons de voyage, nos familles, nos amis. Nous te remercions aussi pour le don de la santé que tu as accordé à chacun d'entre nous. Nous voulons te remercier aussi pour les tribulations, pour les souffrances avec lesquelles tu nous as fait nous approcher l'un l'autre. Nous te remercions d'avoir entendu les prières de tes enfants et que tu as promis les exaucer encore. Nous te remercions d'avoir nous donné la possibilité de nous réunir ici sur les champs de l'IACA pour avoir une réunion ensemble. Maintenant que nous nous mettons à examiner ta parole ensemble, ce dimanche, nous prions que tu entendes toujours nos prières et que tu ouvres ta parole d'après ta volonté. Laisse tes serviteurs pauvres t'approcher avec assurance et parler courageusement ce que tu nous donnes à parler, de la façon à ce que les auditeurs soient rafraîchis et encouragés et nourris du pain de la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mène pas à la tentation, mais libère-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En priant que le Père céleste veuille briser sa parole pour les besoins des cœurs, des auditeurs, je vais lire comme introduction un passage des Actes des Apôtres, chapitre 20, et les versets de 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. On ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation. Amen. Ce passage de la parole de Dieu que nous venons de lire parle du troisième voyage de mission de Paul, de ses derniers jours. Pendant ce voyage, Paul avait passé du temps dans plusieurs villes et il y avait prêché l'Évangile. Et maintenant, il était en chemin pour vers sa propre ville. Et pendant ce voyage, il s'est arrêté à Troas, dans un village qui s'appelait Troas. Un village qui est situé à l'ouest de la Turquie, au bord de la mer Égée. Il avait visité cette ville même avant, pendant ses voyages missionnaires et même pendant ce troisième voyage. Et maintenant, pendant son retour, il y passa 7 jours. Le texte que nous venons de lire nous raconte de la dernière réunion où Paul assistait pendant ce voyage. Dans le premier verset, on dit « Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. » Dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, on décrit la vie des premiers chrétiens dont nous avons entendu parler même pendant cette réunion d'été. On décrit dans les Actes des Apôtres combien les premiers chrétiens, les croyants de la Nouvelle Alliance, ils s'assemblaient. Tous les jours, et ils se rassemblaient pour rompre le pain avec une simplicité de cœur et unanime avec une simplicité de cœur. Même notre texte aussi décrit une telle situation. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous apprenons beaucoup d'assemblées, beaucoup de réunions et les apôtres qui y parlaient, qui prêchaient dans cette réunion, nous savons de quoi ils parlaient. Ils proclamaient le royaume de Dieu d'après l'ordre de Jésus. Dans la réunion de laquelle parle notre texte, on ne nous dit pas le sujet du sermon de Paul. Mais nous voyons que les apôtres ressentaient un amour vers les assemblées qu'ils avaient pu visiter. Et Paul, il ressentait un amour aussi pour les croyants vivant à Troas. Dans les réunions, il venait aussi des gens qui n'étaient pas encore croyants. Et Paul, il leur prêchait que le royaume de Dieu était venu. Il les exhortait à la repentance. Mais en même temps, il consolait et encourageait les croyants dans leur combat contre le péché. Il voulait qu'ils se gardent dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi quand il aimait les croyants vivant à Troas, et il devait le lendemain, il devait quitter la ville. Et on dit dans notre texte qu'il prolongeait son entretien jusqu'à minuit. À l'époque où il y a eu des gens intéressés par la parole de Dieu, il y a eu ce genre de période, même dans notre pays, des périodes où les gens ont voulu entendre la parole de Dieu. À ces époques, les réunions ont été longues. Dieu a ouvert sa parole. Les gens ont voulu recevoir l'Évangile. Ils ont voulu entendre la prédication. Personne ne voulait quitter ces réunions. Les gens ont voulu se recueillir pour entendre la parole de Dieu. La réunion dont parle notre texte, dans cette réunion, il y a eu un accident. On nous dit qu'il y avait un grand nombre de lampes ou des bougies allumées dans la chambre où les gens étaient assemblés. Il y avait un jeune homme du nom d'Eutychus qui était assis sur la fenêtre et qui fut pris d'un profond sommeil et tomba du troisième étage. Donc, il s'agissait d'une maison avec trois étages. Et pour une raison ou une autre, ce jeune homme était assis sur le bord de la fenêtre. Là, à l'époque, il n'avait pas de glace à la fenêtre. C'était des fenêtres ouvertes. Pendant la journée, la lumière passait par la fenêtre. Mais pour la nuit, on fermait les fenêtres, les volets. Mais là, les gens étaient réunis et la fenêtre était ouverte pour avoir de l'air frais. Moi, quand j'étais enfant et que j'allais dans les réunions dans mon village, les réunions commençaient à 7h30 le dimanche soir. Et s'il y avait deux prédications à la réunion, comme il arrivait souvent, la réunion durait jusqu'à longtemps, jusqu'à tard. Et je me rappelle, m'être endormi beaucoup de fois. J'étais assis à côté de ma mère et je me penchais sur elle et je dormais. Mais ce n'était pas seulement les enfants et les jeunes gens qui s'endormaient, mais aussi je voyais des adultes, même des vieilles, des personnes âgées qui quelquefois tomber en sommeil. Donc, je me demande pourquoi personne n'a réveillé ce jeune homme du Tichis qui s'était endormi à la fenêtre. On ne nous le dit pas dans la Bible, mais la Bible raconte que cet homme qui était mort, il lui arriva un miracle, car Paul, il descendit, il se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit qu'il n'y a pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. Donc Paul, il pria pour ce jeune homme et se mit la main sur lui. Et cet homme... Il eut sa vie encore de nouveau. Et Paul, il resta là et parlait pour parler et rompre le pain avec les chrétiens. Dans la Bible, dans le livre des rois, dans l'Ancien Testament, on parle d'un autre événement pareil. Où Dieu redonna la vie à un jeune homme après la prière de quelqu'un d'autre. Quand nous pensons à Luc qui a voulu écrire ces événements dans les Actes des apôtres, il a voulu décrire le travail des apôtres. On se demande quel est le sens spirituel de cette réunion qu'il décrit ici, dans le passage que nous venons de lire. Quel est son sens? En lisant ce texte, il m'est venu à l'esprit que ce jeune homme il vivait avec un corps partagé, donc il avait d'une façon un pied à l'intérieur et l'autre pied à l'extérieur. Le monde l'attirait comme il l'attire. Nous tous, notre part corrompue est tentée par tout ce que le monde de l'extérieur peut nous offrir. Et il y a le danger que nous commençons à vivre parmi les gens du monde. Nous vivons comme les gens du monde vivent. Et puis, quand nous sommes avec les croyants, nous vivons comme les croyants. Là, il y a des dangers. Quand les disciples posaient des questions à Jésus au sujet des signes de la fin du monde, Jésus leur parlait de l'essence du royaume de Dieu. Il dit à ses disciples que là, le royaume de Dieu sera comme 10 jeunes filles dont 5 sont sages et 5 ne sont pas sages. Dans l'évangile de Matthieu, on décrit dans le verset 5, on dit que lorsque l'époux tardait, toutes les jeunes filles eurent sommeil. Donc, quand l'époux tardait, les jeunes filles eurent sommeil. Pourquoi nous avons sommeil? Pourquoi sommes-nous fatigués? N'est-il pas parce qu'il est dur? Nous avons des fardeaux. Il y a quelque chose qui pèse sur nous. Et pour cela, nous nous sentons fatigués. Dans notre temps, qu'est-ce qui nous rend fatigués? Si nous pensons à ça du point de vue de la foi, n'est-il pas que il nous manque le silence? Le silence qui est un des fruits de l'esprit. Il nous manque le silence, parce que la vie est remplie de chagrins, de différents chagrins. Nous nous intéressons à des choses temporelles autant que nous avons tout le temps besoin d'action. Est-ce que nous avons... Est-ce que nous fermons, nous nous éteignons nos portables quand nous arrivons à la réunion, par exemple? Nous nous trouvons faibles. Notre vie est remplie par des chagrins temporels. Cela nous rend fatigués. Une autre chose qui nous fatigue, c'est l'ennemi des âmes qui travaille tout le temps. Il nous attaque tout le temps. Et puis, il y a notre propre part corrompue. Il y a le monde. Il y a toute l'information qui nous entoure. Il y a tellement de choses qui pèsent sur nous et qui nous rend fatigués. Quand je pense à mon enfance et aux réunions où j'assistais, où je dormais, je m'endormais souvent, là, je me sentais assurée, j'étais en sécurité, j'étais entourée par des croyants. La prédication de la parole de Dieu m'approchait. Il y avait peut-être une toute petite fraction qui me réveillait, ou bien Il y avait un frère ou une sœur qui était assis à côté de moi, qui m'a poussé un petit peu pour me réveiller. Mais quand on peut voyager à la place d'un enfant de grâce, nous pouvons même dormir à la réunion tout en sécurité, parce que l'Évangile, il nous soigne, il nous bénit, même si extérieurement nous sommes en sommeil. Mais nous devrions veiller dans la foi. Nous devrions entendre, écouter ce que l'Esprit dit à son Église. Nous devrions écouter ce que la parole nous enseigne. Nous devrions aussi écouter les avertissements. Quand Dieu ouvre sa parole et nous montre des signes de notre temps, des signes qui nous disent, qui nous indiquent que l'avènement de que le deuxième avènement de Jésus nous approche. Si nous vivons comme je pense que le jeune homme Eutychius vivait, un pied dans le monde, et l'autre dans le royaume. Et quand si nous nous mettons, si nous nous endormons, si l'ennemi nous trahit à ce moment, même si la vie de péché que l'ennemi des âmes nous décrit, même si elle nous semble belle, et même si l'ennemi des âmes nous donne de fausses promesses, le monde à l'extérieur, il est dur. Eutychius, quand il tomba, il fut relevé mort. Lui, il eut la grâce. Les enfants de Dieu étaient là, ils virent sa chute, et Dieu lui accorda encore la grâce de revenir, de retourner parmi les croyants. Quand je me rappelle de ma jeunesse où je venais toujours souvent à la Réunion, même ici à Liaka où je vivais, j'en garde de très beaux souvenirs des visiteurs de Réunion qui ont déjà décédé. Je garde des souvenirs aussi des gens qui ont eu le sort d'Eutychius, qui sont tombés et qui n'ont pas encore eu la grâce de revenir. Le monde les a tentés, le monde les a attirés, et l'ennemi les a fait égarer. Mais Dieu est bienveillant. La grâce de Dieu vous est offerte même aujourd'hui. Elle est offerte pour celui qui a été perdu ou égaré par l'ennemi. L'Évangile de grâce de Dieu veut t'appeler, cher ami, réponds-toi avant le soir, avant qu'il est trop tard. La parole de Dieu veut t'approcher, toi, aujourd'hui. Si tu as besoin de la paix que tu éprouvais autrefois, si tu as besoin de la joie que le pardon des péchés apporte dans le cœur, cela est encore possible. Tu peux croire que tous tes péchés sont pardonnés au nom et au sang de Jésus. Et tu peux recommencer. Cela est possible. J'aimerais poser ma main sur toi comme le faisait Paul pour que le Père céleste t'ouvre le cœur pour croire. Car le fait de perdre sa foi, c'est une chose sérieuse, comparable à la mort. La Bible nous dit que si tu es mort spirituellement et que ta vie temporelle arrive à la fin, il s'ensuit une mort éternelle. Pierre, dans sa deuxième lettre, il écrit il écrit de la même chose dont parle Pierre, il nous rappelle dans sa deuxième lettre, son troisième chapitre, le Seigneur, il ne tardera pas son avènement, sa promesse, comme certains le croient. Il est patient avec nous et il ne veut pas que nous périssions, mais il veut que tout le monde se répandent, se repentit. Il nous avertit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et Pierre nous exhorte les croyants à attendre l'avènement du Seigneur. Il dit, attendez-le. Nous voulons attendre l'avènement du jour du Seigneur. Tout les enfants de Dieu qui combattent dans la foi, qu'il est encore la volonté et le courage d'attendre l'avènement du jour du Seigneur. Dans notre combat, nous tombons dans le péché, nous pouvons le rejeter toujours. Dans le monde, il y a deux genres de pécheurs. Il y a de ceux qui voyagent sous le péché et puis il y a ceux qui ont été libérés de leur péché. Si nous pouvons marcher sous la grâce, si nous pouvons être nourri par le pain de la grâce, nous pouvons attendre heureusement le moment où le Fils de Dieu reviendra. Chers frères et sœurs, est-ce que tu as éprouvé la fatigue? Est-ce que tu as éprouvé le sommeil ou le fardeau du péché? Est-ce que tu as ressenti des tentations, la tentation de te mettre un pied à l'extérieur? Cher auditeur, est-ce que tu l'as, peut-être que tu l'as déjà fait? Écoute, tu peux croire que tous tes péchés sont pardonnés. Remets ton pied à l'intérieur. Tu peux croire que tous tes doutes, toutes les tentations, toutes les chutes sont pardonnées. Tu peux être resté en paix et en joie, en liberté. Il ne nous est pas facile à nous, les enfants de Dieu, de voyager. Nous sommes entourés de tentations. Nous, les enfants, les jeunes, les adultes, même les personnes âgées, l'ennemi des âmes, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps pour son travail. Il attaque contre nous. Mais Dieu, il est miséricordieux envers les pécheurs. Paul écrit aux Romains combien il est important de vivre à l'appartenance de l'Évangile. Il leur dit que je n'ai pas honte de l'Évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu qui rend le bonheur à quiconque le croit. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, tu peux être en assurance, tu peux croire que tous les péchés sont pardonnés au nom et au sang de Jésus. Au nom et au sang de Jésus, tous vos péchés sont pardonnés. Et tous les doutes, toutes les tentations. Restez en paix et en joie, en la liberté. Moi aussi, quand je suis montée sur ici devant vous, je me disais que ce passage de texte a été écrit pour moi. Parce que ma propre chair est faible pour lutter contre le péché et les tentations. Le péché m'a enveloppé. Est-ce que je peux croire que mes péchés sont pardonnés? J'ai envie de croire ensemble avec vous, avec les enfants de Dieu. La puissance de la grâce est merveilleuse. Elle nous porte, elle nous soutient, elle nous aide. Elle nous portera jusqu'au ciel. Veuillons rester et voyager avec ce troupe. Au nom de Jésus, Amen.